Vous écoutez, on lit pour vous.
Le web prend un tournant sonore. Un texte de Daphné B. paru le 6 avril 2025 dans la presse. Et si le son contribuait à modeler progressivement nos vies numériques? On décrit généralement la culture web comme éminemment visuelle. Il y a une dizaine d'années, alors que les médias sociaux resserraient leur emprise sur nos vies, on a par exemple qualifié ma génération de « génération selfie », comme pour suggérer que les natifs numériques étaient prédisposés à se mettre en scène visuellement, enhardis par un ego surdimensionné. La production et la diffusion d'images, favorisées par les nouvelles technologies, façonnent pourtant notre rapport au monde depuis un bon bout de temps. C'est en 1992 que W.G.T. Mitchell, professeur d'histoire de l'art et de littérature de l'Université de Chicago, théorisait le « pictorial turn » ou « tournant pictural » que prenaient les sciences humaines afin de mieux rendre compte de l'influence des images dans nos vies. Il contribuait ainsi à l'émergence des « visual studies ». Plus de 30 ans plus tard, alors que les balados pullulent, que j'archive des sons sur TikTok et que j'envoie de longs mémos vocaux à mes amis, j'ai parfois l'impression que la prépondérance des images est concurrencée par une autre force culturelle, le son. Le tournant sonore que j'envisage ne signifie pas pour autant que notre appréciation musicale se raffine. Avec l'avènement des méga-plateformes de streaming comme Spotify, la journaliste musicale Liz Pelley affirme dans son récent ouvrage « Mood Machine » « The Rise of Spotify and the Cost of the Perfect Playlist » qu'on assiste à une sorte de « playlistification de la musique ». En ce que notre consommation musicale s'organise souvent autour de listes de lecture qui décentrent les artistes au profit d'esthétiques précises. Apéro chill, ambiant, lo-fi, etc. Au lieu d'écouter un album de Daniel Bélanger, par exemple, on écoutera une liste d'écoutes détente. Selon Pelley, on consomme maintenant davantage la musique de façon passive, utilitaire. Elle nous sert de trame sonore, génère des ambiances et magnifie notre environnement, mais rarement faisons-nous de son écoute notre activité principale. Alors, pourquoi le son occuperait-il une place grandissante dans nos vies? L'ère des émissions balado. En 2025, il est difficile de nier l'omniprésence des émissions balado. Pour le sémiologue Jean-Michel Berthiaume, qui enseigne la balado-diffusion à l'UQAM, l'émission balado demeure pourtant difficile à définir. C'est un objet vaste et polymorphe. Au téléphone, il me suggère de la considérer comme une production médiatique qui rend possible ce qu'on ne permettrait pas à la radio, par exemple, des moments de silence. Il faut dire que les émissions balado, surtout si on les écoute avec des écouteurs, catalysent une impression de proximité. Contrairement aux productions radiophoniques traditionnelles, une forme d'intimité semble y être cultivée, voire performée. On a parfois l'impression d'écouter une conversation privée. Pour Jean-Michel Berthiaume, la pandémie aurait propulsé la popularité des émissions balado, notamment en raison du sentiment d'isolement ressenti par beaucoup. Or, plus on a l'impression d'être ami avec la personne qui anime notre podcast préféré, plus cette dernière détient un pouvoir d'influence sur nous. Par-delà l'info. Les émissions balado ne sont pas que des vecteurs d'information. Ils nous tiennent aussi compagnie, apaisent nos états d'âme et nous offrent des moments d'évasion. Dans un texte paru sur le site du magazine Real Life, le professeur agrégé en études des médias, Mac Agut, précise que notre consommation médiatique vise tout autant à gérer nos émotions qu'à accéder à des informations. Sur l'Internet, par ailleurs, le son s'adresse souvent au corps. Depuis plusieurs années, le contenu ASMR, visant à générer des sensations physiques agréables au moyen de stimulus auditifs, foisonne. Lieu commun numérique, ce type de contenu est d'ailleurs si populaire qu'à l'occasion du 1er avril, le compte TikTok de la Sûreté du Québec publiait une vidéo humoristique dans laquelle elle annonçait utiliser des techniques ASMR comme des petits bruits de bouche, des tapotements, des chuchotements et de légers sifflements pour déjouer les criminels dans les salles d'interrogatoire. La révolution TikTok. Si la pandémie a profité aux émissions balado, elle a aussi catapulté la popularité de l'application TikTok. Celle-ci fonctionne comme une bibliothèque géante de chansons et de soundbites, clips sonores. Dans ses communications, l'entreprise affirme elle-même que la musique et le son constituent sa langue universelle. Plus que les images, c'est donc l'audio qui voyage et qui détermine les tendances sur l'appli. Par exemple, même si je n'ai pas regardé Big Brother Célébrité, je connais et je chante à mon corps défendant la nouvelle ritournelle de François Lambert parce que la production de l'émission a eu l'idée de la publier sur TikTok, où elle est devenue un mème. Sur l'appli, le son sert aussi de paratexte journalistique. Certains journaux, comme The Guardian, accompagnent désormais leur publication d'un carrousel d'ambiance sonore thématique, comme pour nous indiquer comment recevoir l'information qu'on s'apprête à lire. Un texte enquêtant sur les causes structurelles du suicide d'une adolescente est par exemple accompagné d'une mélodie de piano triste intitulée « Pain That Lasts ». Évidemment, ces différentes manifestations du son dans la culture web ne forment pas une liste exhaustive, mais elles illustrent à merveille ce que j'appelle le tournant sonore numérique. Elle démontre aussi l'importance de théoriser davantage la présence du son dans nos vies. Le son est notamment appelé à prendre davantage de place en art, et les nouvelles productions culturelles sonores nécessitent qu'on les mette en valeur et qu'on les finance au même titre que les livres, les films ou encore les pièces de théâtre. D'ailleurs, je découvrais récemment l'existence d'un cours en littérature sur l'émission Balado, la radio et les arts vivants donnée à l'UQAM. Selon l'autrice et professeure de littérature Charlotte Biron, à l'origine du cours, c'est peut-être la première fois qu'un cours au département porte sur le son et la littérature en arrimant l'histoire plus longue de la radio à la pratique contemporaine, avec autant les radiothéâtres que le balado et des formes plus expérimentales de création. Comme quoi, il y a quelque chose dans l'air. C'était « Le web prend un tournant sonore », un texte de Daphné B., paru le 6 avril 2025 dans La Presse.
En route vers la marche SP 2025 à Repentigny. Un texte de Marie-Christine Gaudreau, paru le 18 mars 2025 dans Hebdo Rive-Nord. La division Lanaudière de Sclérose en plaques, SP Canada, tiendra le 25 mai prochain sa marche annuelle au parc de l'île Lebel à Repentigny. Chaque année, cet événement constitue l'une des plus importantes campagnes de levée de fonds de l'organisme. Ce printemps ne fera pas exception, avec un objectif financier ambitieux, mais nécessaire, fixé à 96 900 $. Elle-même touchée par la maladie, la directrice générale de SP Canada, Lanaudière, Geneviève Fortin, témoigne de l'importance de cette campagne. Notre objectif est ambitieux, mais on a quand même amassé plus de 93 000 $ l'année dernière, rappelle-t-elle d'emblée, en entrevue avec l'Hebdo Rive-Nord. Cette importante somme récoltée, grâce à l'implication de fidèles partenaires, permet à SP Lanaudière de maintenir la qualité de ses services auprès de ses membres et de leurs familles, année après année. On offre beaucoup d'activités qui permettent de rester actif, de sortir de l'isolement, de donner de l'information, explique Geneviève Fortin. Des séances d'activités physiques adaptées, proposées en virtuel et en présentiel, sont notamment offertes aux membres à raison de 3 fois par semaine. Dans le but de socialiser, parce qu'on ne se le cachera pas, pour les gens qui sont invalides au travail ou un peu plus âgés, il y a beaucoup d'isolement. On organise des activités en cours d'année, poursuit la directrice. Les Lanaudois, touchés par un diagnostic de sclérose en plaques, peuvent, par exemple, prendre part à des ateliers d'art-thérapie, participer à des activités de cuisine collective, assister à des conférences sur des sujets qui les interpellent ou simplement profiter d'un moment d'échange lors des cafés-jasettes. Des activités ponctuelles sont aussi organisées en cours d'année, telles qu'une sortie à la cabane à sucre et la participation au congrès annuel Espoir Famille. Soutenir et informer. De plus, au-delà des services directs aux Lanaudois, les fonds amassés permettent de soutenir la recherche sur la maladie et ses traitements, ainsi que d'autres initiatives provinciales. Ça permet d'offrir, en partenariat avec la Division du Québec, tous les autres services comme un programme de soutien par les pairs, de préciser Geneviève Fortin. Pour les personnes nouvellement diagnostiquées, ce service est apprécié, mentionne-t-elle, puisqu'il permet d'être jumelé à une personne qui vit la même réalité et qui a été formée pour offrir l'écoute et l'accompagnement dont peuvent avoir besoin les bénéficiaires. Pour Geneviève Fortin, du moins, les services et l'information véhiculée par SP Canada ont été d'un grand réconfort. Ça a été une source d'information de qualité pour moi. Au début, j'étais allée sur certains groupes Facebook pour en apprendre plus et savoir à quoi m'attendre. Malheureusement, l'information pour une personne nouvellement atteinte, je trouve que c'est une information qui est difficile à assimiler, parce qu'on ressent beaucoup de détresse dans les gens qui partagent sur les réseaux sociaux. Ça met une inquiétude supplémentaire, parce que ça ne veut pas dire que ce que ces gens-là vivent, on va le vivre nous aussi. L'annonce, un choc. Geneviève Fortin a reçu son diagnostic en décembre 2019, quelques mois à peine avant le début de la pandémie mondiale. Isolée de ses proches et le suivi médical devenu difficile dans les circonstances, les ressources trouvées auprès de SP Canada ont joué un rôle important lors de ses premiers mois de cohabitation avec la maladie. C'est une annonce qui est dévastatrice dans une vie et ça touche beaucoup de nos proches aussi parce que c'est une maladie neurologique qui est dégénérative. On ne sait jamais la vitesse de l'évolution et quels handicaps ça va amener avec le temps. C'est toujours comme une épée de Damoclès. Dans le cas personnel de Mme Fortin, la sclérose en plaques s'est présentée par des engourdissements qui se sont d'abord emparés de ses mains, puis ses bras et ses pieds, jusqu'à se généraliser à l'ensemble de son corps en l'espace de quelques semaines. Celle-ci précise toutefois qu'il n'y a pas de parcours typique dans les symptômes de cette maladie, qui se présente différemment pour chaque personne atteinte. Moi, ça a été vraiment le sensitif, les engourdissements, et ont suivi un manque de concentration assez important, de la fatigue. La fatigue est le symptôme le plus dérangeant pour 80% des personnes atteintes. Faire progresser la recherche. Heureusement, se réjouit Geneviève Fortin, la recherche a beaucoup évolué dans les 20 dernières années, ce qui fait en sorte que la médication permet aujourd'hui de limiter les nouvelles poussées de la maladie qui amèneraient de nouvelles plaques, donc qui amèneraient de nouvelles pertes de mobilité ou de nouveaux handicaps. Ça permet de miser un peu plus sur une stabilité à long terme. Du moins, c'est le cas pour la forme récurrente rémitante, la forme la plus commune concernant de 80 à 85% des patients, se traduisant par des poussées aiguës de symptômes avec des périodes de rémission. Néanmoins, d'autres formes plus sévères de la maladie existent et disposent, pour l'heure, de moins de possibilités de traitement. Ce sont ces formes-là qui vont devoir, on l'espère, avoir des avancées dans les prochaines années. À propos de la marche SP Lanaudière 2025. La marche SP 2025 à Repentigny se déroulera le 25 mai dès 10 heures au parc de l'île Lebel. À cette occasion, les marcheurs seront appelés à parcourir une boucle d'environ 700 mètres. Les participants sont invités à former des équipes et à amasser des dons pour soutenir la cause. Diverses activités et animations seront proposées tout au long de cette journée festive et solidaire. L'organisation accueille cette année Éric Portelance, président CEO de Summit Logistics Canada, à titre de président d'honneur. Depuis son diagnostic, M. Portelance s'implique auprès de SP Lanaudière. L'an dernier, il organisait la première classique de golf des Porto en collaboration avec Summit Logistics et Caro Expert. Un peu plus de 30 000 $ ont été amassés lors de cette première édition. L'événement aura lieu le 22 mai cette année. Depuis mon diagnostic de sclérose en plaques en 2023, j'ai pu constater l'impact réel des services offerts par Sclérose en plaques Lanaudière. C'est avec conviction que j'accepte la présidence d'honneur de la marche SP 2025. Souligne ce dernier, invitant la population à participer en grand nombre. C'était En route vers la marche SP 2025 à Repentigny. Un texte de Marie-Christine Gaudreau, paru le 18 mars 2025 dans Hebdo Rive-Nord.
Des compléments alimentaires pour booster son immunité. Vraiment? Un texte de Morgane Petit, paru le 4 avril 2025 dans Science et Vie. Booster son immunité. On entend souvent ce credo, surtout au moment de l'hiver. On nous incite à prendre des compléments alimentaires comme de la vitamine C pour renforcer nos défenses immunitaires. Mais est-ce vraiment efficace? Des compléments alimentaires peuvent-ils vraiment nous protéger contre les infections? Des compléments miracles pour booster son immunité. Qui n'a pas déjà lu ou entendu cette affirmation? C'est principalement vrai au moment de l'hiver. On nous incite alors à faire des cures à base de compléments alimentaires comme la fameuse vitamine C. Que valent ces conseils? Faut-il vraiment faire une cure de compléments alimentaires pour renforcer notre système immunitaire? Des nutriments essentiels. vitamines et oligo-éléments sont des nutriments essentiels. Ce sont des molécules nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme, mais qui ne peuvent pas être produites par ce dernier. Une complémentation est donc obligatoire. Parmi ces molécules, on va trouver les minéraux et oligo-éléments essentiels comme le chrome, le fer, le fluor, l'iode ou encore le zinc. Chacun de ces nutriments réalise des fonctions importantes pour l'organisme. Le chrome, par exemple, aide l'organisme à maintenir des niveaux de sucre sanguin normaux, tandis que le fluor participe à stabiliser le contenu minéral des os et des dents. Les besoins vont être variables en fonction de l'âge, du sexe ou des habitudes de vie, sport, consommation de tabac, régime végétarien. Parmi les nutriments, on trouve également les vitamines. Le corps humain ne peut fabriquer que les vitamines K et D. Les autres, C, E, B, doivent donc être apportés par des compléments. Les vitamines participent à de nombreuses fonctions biologiques. Elles aident à la croissance et au développement du squelette, participent à l'entretien du corps, au bon fonctionnement du système immunitaire ou nerveux, ou encore à la fabrication d'ADN. Pour ce qui est du système immunitaire, les nutriments y jouent un rôle clé. Par exemple, les vitamines antioxydantes, C et E, et certains oligo-éléments, sélénium, cuivre ou zinc, neutralisent les dommages causés par certaines molécules oxydantes sur les tissus cellulaires. Ils modulent également la fonction et la production des cellules immunitaires. Les vitamines B, C et E, ainsi que le sélénium, le zinc, le cuivre et le fer, maintiennent une réponse immunitaire efficace. De leur côté, les vitamines A et D jouent un rôle important dans la réponse des anticorps. Au vu de l'importance de ces nutriments, en particulier en ce qui concerne l'immunité, on comprend mieux pourquoi il semble important de booster son immunité avec des compléments alimentaires. Oui, mais non. Booster son immunité avec des compléments alimentaires, ce n'est pas nécessaire. Oui, les nutriments sont essentiels pour notre organisme et notre système immunitaire. Mais non, booster son immunité en prenant des compléments alimentaires ne sert à rien. Pourtant, dans le paragraphe précédent, vous avez entendu plusieurs fois qu'il faut se complémenter. Oui, tout à fait, puisqu'on ne peut pas les produire nous-mêmes. Mais la nuance est grande. On ne se complémente pas avec des petites gélules, mais tout simplement avec notre alimentation. Car, au final, la supplémentation est très souvent inefficace. Ainsi, la supplémentation en vitamine D n'a montré aucune efficacité contre les infections. Pour ce qui est de la vitamine C, aucune étude n'a pu démontrer clairement des effets bénéfiques significatifs sur la durée ou encore la sévérité des rhumes. Même constat pour les oligo-éléments. On peut, par contre, citer le cas du zinc. En 2021, les autorités de santé européennes ont réagi à certaines allégations santé de compléments alimentaires concernant le zinc. Après des études scientifiques, il apparaît effectivement que ces produits peuvent prétendre à contribuer au fonctionnement normal du système immunitaire si et seulement si ces produits contiennent au moins 1,5 mg de zinc pour 100 g ou 100 ml. Mais on parle bien de fonctionnement normal, on ne parle pas de booster son immunité. Finalement, la supplémentation n'est nécessaire que pour certaines personnes, celles qui sont carencées. Quand on a une carence, on ne cherche pas à booster son immunité, mais juste à retrouver un fonctionnement immunitaire normal. Ainsi, les personnes âgées peuvent nécessiter des compléments en vitamines ou oligo-éléments. Les personnes véganes ou végétariennes peuvent également avoir besoin de suppléments en vitamine B12. Dans tous les cas, il vaut mieux consulter un professionnel de santé lorsque l'on veut se supplémenter, car des surdosages en vitamines ou oligo-éléments peuvent avoir des effets délétères sur la santé. Attention au surdosage. Les nutriments sont essentiels, certes, mais souvent en quantité assez faible. Prendre des compléments alimentaires peut donc conduire à des surdosages. Or, ces derniers n'aideront alors pas à booster son immunité, mais pourraient au contraire devenir nocifs. Ainsi, dans certaines conditions, la vitamine C peut avoir des propriétés oxydantes et non plus antioxydantes. De plus, un apport excessif en cette vitamine peut provoquer des problèmes digestifs et des nausées. Pour ce qui est de la vitamine A, un surdosage peut provoquer une perte de cheveux, des gerçures des lèvres, une peau sèche, une fragilisation osseuse ou encore des céphalées. En ce qui concerne les oligo-éléments, à taux élevés, ils deviennent toxiques. Certains, comme l'arsenic, le nickel ou le chrome, peuvent même provoquer des cancers. Un excès de fer peut aussi favoriser le développement bactérien. Alors, pas de recette miracle pour booster son immunité? Le plus important pour avoir un système immunitaire efficace et fonctionnel est d'avoir une alimentation équilibrée. Plus l'alimentation sera diversifiée, plus les nutriments seront disponibles, et ce, à de bonnes concentrations, hors pathologies éventuelles. Pour la vitamine C, mieux vaut donc consommer des fruits et légumes, comme les agrumes ou les poivrons. Le cuivre se trouvera en grande quantité dans le chocolat, les huîtres ou les pommes de terre. La vitamine B12 est principalement disponible dans les viandes, les poissons ou les produits laitiers. Il faudra donc veiller à complémenter les personnes végétariennes. L'activité physique est également un bon moyen de lutter contre certaines maladies. Ainsi, certaines études ont montré qu'une pratique physique d'intensité modérée à vigoureuse diminue les risques d'infections respiratoires aiguës, grippe, COVID. En revanche, attention à une activité physique trop intense ou trop longue qui peut conduire à une baisse temporaire des défenses immunitaires. Et, si l'on cherche vraiment un remède miracle pour booster son immunité, il en existe un, la vaccination. Cette pratique apprend au système immunitaire à reconnaître et à se battre contre les pathogènes. Grâce à elle, des millions de vies ont pu être préservées. C'était « Des compléments alimentaires pour booster son immunité. Vraiment? » Un texte de Morgane Petit, paru le 4 avril 2025 dans Science et Vie.